Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall. Cette semaine, le sujet de l'heure, la prolongation de contrat de Fernando Alonso avec Aston Martin. Donc, c'est une prolongation de contrat de plus de deux saisons. Et pour en parler, j'accueille avec moi deux de mes collaborateurs habituels, Marc-André Fortin et Anna Maria Mercado Lopez. Bonjour, bonjour.
Salut Abdou.
Comment vous allez?
Salut Abdou.
Ça va très bien, très très bien. Avec, disons, de l'actualité de Formule 1 assez remplie dans les dernières semaines. On ne dort jamais en Formule 1, mais là, ça brasse pas mal.
Ouais, surtout cette année, parce que c'est surtout une année charnière pour plusieurs pilotes, dont un qui est le sujet de la semaine, c'est Fernando Alonso. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une prolongation de contrat de plusieurs saisons, entre parenthèses, 2 ans pour Fernando Alonso avec Aston Martin, donc c'est-à-dire 2025 et 2026. Merci de rendre le truc assez évident, Abdou. Donc, Alonso est avec Aston Martin depuis 2023, donc, et en date du Grand Prix du Japon 2024, la dernière course sur laquelle il a participé, Alonso compte 230 points et 8 podiums, donc, et dont 3 deuxièmes places réalisées au Grand Prix de Monaco, du Canada et des Pays-Bas. Alors, dans tout ça, avec ça, il va travailler de nouveau avec Honda, un motoriste avec qui Alonso a fait les beaux et mauvais jours avec McLaren de 2015 à 2017, incluant une participation aux 500 000 d'Indianapolis en 2017. Et à la fin de 2026, Alonso aura 45 ans et sera un des plus vieux pilotes sur la grille de départ à participer à un Grand Prix depuis Graham Hill, qui, à l'âge de 45 ans et 345 jours, a participé au Grand Prix du Brésil. Et pour le directeur d'écurie, Mike Crack, c'est une nouvelle fantastique de garder Alonso à long terme, si on peut dire. Alors, je vais vous poser la question en premier lieu. Je vais commencer avec Marc-André. Tes impressions sur cette prolongation de contrat de Fernando Alonso avec Aston Martin pour les deux prochaines saisons?
Moi, j'ai été assez surpris. Pas nécessairement du côté d'Aston Martin. Je pense que l'intérêt de garder Fernando Alonso pour l'écurie est non négligeable. Je pense vraiment que c'est une décision d'équipe assez importante pour le reste, parce que c'est un projet sportif avec beaucoup de conséquences, ce projet d'Aston Martin. La pression est forte, il y a beaucoup d'argent d'investi, autant dans l'usine que dans l'investissement de plusieurs partenaires. Donc, moi, ça allait de soi que l'écurie réussisse, et qu'on le veuille ou non, à l'âge que Fernando Alonso a, il est encore un pilote qui est capable de garder une écurie sur la traque. Puis, il montre encore cette année, malgré les performances coup-ci, coup-ça d'Aston Martin, il réussit quand même à bien tirer son épingle du jeu. Puis, je pense que, désolé du terme anglais, là, le prime d'Alonso est passé, mais il reste un pilote excessivement rapide. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est que probablement que le nombre d'appels était assez impressionnant pour Fernando Alonso. Est-ce que Mercedes a appelé? Est-ce que Red Bull a appelé? On ne saura jamais. Mais pour moi, je pense que c'était un pilote convoité quand même, malgré tout ce qu'on peut dire sur Alonso. Pour une écurie qui veut rester dans le top 4, top 3, s'approcher de potentiellement réussir à rester sur le podium plus qu'une demi-saison, une décision d'Aston Martin devait se faire et Alonso reste pour 2 ans. On dit que ça a été quand même des négociations rapides et simples chez Aston Martin. Donc, littéralement, l'intérêt des deux clans était très fort. Puis, moi, je pense que ça occasionne beaucoup de choses chez Aston Martin. Maintenant, la pression est chez Aston Martin parce qu'il va falloir que cette écurie livre la marchandise pour un pilote qui est assez difficile comme Fernando Alonso.
Merci beaucoup, Marc-André. Anna Maria, qu'est-ce que tu penses de la prolongation de contrat de Elplan?
De mon côté, je pense que c'était la logique qui suivait, parce que comme avait bien dit Marc-André, Fernando, c'est pas un jeune pilote. Et maintenant, après la misaventure à Honda, il est revenu à Alpine et finalement à Aston Martin. On pourrait dire que ça marchait. Lui était de retour au podium l'année passée. Ça s'est bien passé avec Aston Martin. Il n'y a pas eu de problème. Mais que je dis, c'est mieux continuer avec quelqu'un que ça marche, qui allait essayer quelque chose avec une autre équipe. Et pour moi, sincèrement, je ne crois pas que Mercedes aurait offert quelque chose à Fernando et non plus à Red Bull, parce que si on connaît bien Red Bull, il y a l'habitude d'avoir des pilotes, des jeunes pilotes, et il y a toujours en train de chercher quelqu'un au plus jeune ou dans l'équipe B, on pourrait dire comme ça. Mais de ce côté-là, mais je pense que pour Fernando, c'était pour lui, c'était la meilleure option. Et aussi pour Aston Martin, parce que Aston Martin, il fait la suite logique. S'il va bien, si ça va bien avec quelqu'un, pourquoi changer? Et en plus, la nouvelle réglementation, il va rentrer en 2026. C'est que on regarde tout ça ensemble et je dis, ben, c'était comme la meilleure option pour les deux équipes. Et tant qu'à faire, on fait sauver, on fait tout de suite et on arrête les rumeurs et tout ce qui se parle dans les internets. Et là, l'équipe peut se mettre à travailler tranquille. Alonso, il n'y a rien à se préoccuper que si vous cherchez Sainz, si vous cherchez un autre pilote. Et pour la même chose pour Aston Martin, il n'y a pas de stress que à quelqu'un il vient chercher Fernando. Et je pense que à long terme, c'est un pilote qui aime ça la course, qui aime ça travailler. Et même si en 2026, lui, il ne prend pas la voiture, je pense qu'il serait encore dans l'équipe parce que lui, il aime ça.
Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour Fernando Alonso, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'au moins, il y aura de la stabilité. Je pense qu'avec Aston Martin, il sait dans quoi il s'embarque. On connaît aussi depuis des années les ambitions de Lawrence Stroll, le propriétaire d'Aston Martin, qui veut pas seulement aller chercher des podiums, mais veut être une équipe championne du monde. Et tout ça a commencé avec Sébastien Vettel. Il y a une certaine base qui a débuté. Maintenant, Fernando Alonso y est allé d'un cran avec la saison qu'il a connue. Certes, ça a un peu périclité en milieu de saison après le Grand Prix du Canada, mais il y a eu quand même une bonne base. Cette année, c'est peut-être pas aussi reluisant que ce qu'on a vu en début de saison 2023, mais je crois que Alonso semble un peu plus assagi que dans les dernières années, surtout avec McLaren, avec Ferrari, même avec un peu Renault aussi, même s'il a gagné le championnat du monde. On voit un Alonso qui est moins... Certes, je pense qu'il y a eu quelques moments de frustration, mais beaucoup moins qu'avec ses anciennes équipes, entre autres avec McLaren, Honda et le fameux GP2 Engine au Grand Prix du Japon en 2015. Je crois que Alonso semble plus serein à l'idée de rester avec Aston Martin. Et pour Aston Martin, avec tout l'investissement des nouvelles installations à Silverstone, une voiture qui est bonne, qui lui permet d'être compétitif encore à 43 ans. Il va avoir 43 ans cette année en juillet. Alors, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un excellent moyen pour Aston Martin de garder sa base solide. Certes, peut-être un Carlos Sainz aurait été aussi une très bonne option pour le plus que long terme, compte tenu l'âge et tout ça. Mais Alonso est une valeur sûre. Maintenant, Et ça amène au deuxième point. Certes, Alonso a prolongé avec Aston Martin, mais ce n'est pas sans avoir été cherché ailleurs pour voir ce qui est mieux. Parce que il y a certainement eu des discussions avec Red Bull et avec, entre autres, Mercedes. Moi, de ce que j'ai compris des nombreuses analyses dans les médias spécialisés, chez Mercedes, il aurait été un plan B parce que moi, je pense que Carlos Sainz est un plan A prime ou A moins parce que le plan A principal, c'est de promouvoir Andrea Kimi Antonelli qui, présentement, est en Formule 2 avec Prema et d'ailleurs qui en est à sa première saison. Et il va avoir 18 ans, je pense, soit cette année, soit probablement cette année. Donc, et parce que Mercedes veut éviter de le perdre comme ils ont échappé Max Verstappen aux mains de Red Bull. Et parlant de Red Bull, ben, soit il aurait été un bon remplaçant de Sergio Perez dans l'éventualité où ce dernier ne devait pas être renouvelé avec Red Bull et que les options chez RB, soit Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda ou même Liam Lawson ne sont pas suffisantes. Et aussi, c'est un vraiment long shot, mais potentiellement aussi remplacer Max Verstappen ou dans l'éventualité être un des deux. Donc moi, je ne pense pas que ça aurait été bon. Donc je crois que Alonso est resté avec Aston Martin. Non seulement pour la stabilité, mais parce que aussi, c'est dommage pour Red Bull parce que c'était probablement le plan A de Red Bull, de Red Bull d'avoir Alonso, même si on connaît tout l'aspect un peu entre guillemets politique. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé voir? Je vais commencer avec Marc-André.
Moi, je pense que ça a été une possibilité, probablement dans les bureaux. Ça me semble sûr que Alonso est revenu dans les discussions pour remplacer Sergio Perez. Prenons en compte là, que Verstappen est assuré d'être avec Red Bull parce que, bon, en ce moment, on sent déjà que les tensions sont moins fortes. Il me semble de plus en plus clair que Verstappen va conserver son poste chez Red Bull, ne va pas quitter. Donc, prenons là, toute l'histoire du côté de Sergio Perez. Je pense qu'Alonso a été dans les discussions. Maintenant, est-ce qu'il a passé le Verstappen test? Est-ce qu'Alonso aurait pu être coéquipier avec Max Verstappen? C'est là que la question se pose et je pense que personne n'a réellement de réponse. Dans le sens que je suis pas certain que ça aurait été un bon fit pour les deux clans. Mais à un moment donné, je pense que tout le monde est capable de mettre son ego de côté pour le succès d'une équipe. Et le succès de Red Bull, je pense que de plus en plus va passer par deux très bons pilotes. Pourquoi? Parce que les Ferrari sont de plus en plus proches, qu'on le veuille ou non, que je le veuille ou non, les Ferrari se sont approchés. Donc, à un moment donné, là, Sergio Perez fait quand même le travail, donne des résultats, donc pour l'instant, je n'ai rien à dire, mais il faut de la constance. Donc, ça me rendrait quand même triste de voir que Sergio Perez est encore là l'an prochain, parce que quant à moi, dans les deux dernières années, il ne méritait pas de contrat. Donc, même s'il revient et il renaît cette année, je pense que ça prend du changement. Mais est-ce que ce changement s'appelle Fernando Alonso? Maintenant, on sait que non. Est-ce que ça aurait pu être possible? J'hésite à dire oui, mais dans tous les cas, je pense que c'est sûr qu'il a papillonné. C'est sûr que les équipes ont voulu papillonner avec lui. Résultat, il reste avec Aston Martin. Maintenant, chez Mercedes, ça aurait pu être une très bonne option pour, par exemple, un ou deux ans. Mais là, est-ce que tu veux vraiment attendre un ou deux ans avant de monter Antonelli? C'est là la grande question. Maintenant, si tu signes Sergio Perez, ça va réellement être pour un ou deux ans? C'est pour ça que le nom de Sergio Perez Carlos Sainz, je rembobine, me semble pas le bon, parce que Antonelli va rentrer chez Ferrari d'ici bientôt. Si c'est pas un an, ça m'étonnerait que ce soit deux. Pour Sergio, pour Carlos Sainz, je vois mal comment il pourrait rester un ou deux ans seulement chez Mercedes, à être le bouche-trou de Mercedes. J'ai hâte de voir. Ça va être excessivement intéressant.
Et pour compléter, en fait, je pense que pour Alonso aussi, le fait d'être un plan B dans une écurie et d'être un peu, comme les Anglais disent, un seat filler pour un autre pilote, ce n'est pas ce qu'il veut. Et c'est exact, je pense, c'est même la raison pour laquelle il a quitté Alpine pour aller chez Aston Martin, parce que voulait préparer le terrain pour Oscar Piastri. Et on connaît la suite. Donc, je ne pense pas qu'Alonso aurait... sportivement, ça aurait été bien d'aller chez Mercedes, même si on en reparlera après là, dans la section des marchés des transferts. Mais je ne pense pas qu'Alonso aurait été aurait apprécié être dans cette situation de remplir le siège, de réchauffer en fait. C'est ça, réchauffer le siège d'un autre pilote en attendant. Donc.
Peut-être un dernier point avant que je quitte, mais je pense aussi que peut-être qu'Alonso a un petit peu peur des résultats des autres écuries. Peut-être qu'il a une confiance énorme aussi au développement de sa propre écurie. Et regarde chez les voisins, il se dit, OK, le gazon, il est pas si vert chez les voisins. Peut-être qu'il se dit que chez Mercedes, ça va continuer à dégrader vers le bas. C'est aussi ça la Formule 1, hein, c'est de miser et de parier sur la performance d'une voiture d'une année à l'autre ou d'une évolution à l'autre. Et c'est ça qui est excessivement difficile pour les pilotes. T'sais, même pour Max Verstappen, il doit être en train de se demander, OK, est-ce que Mercedes va avoir la meilleure évolution en 2026? Est-ce que ce sera Ferrari? Est-ce que ce sera ma propre écurie? Donc, pour tous les pilotes, c'est ça. Mais pour Fernando Alonso, c'est ses dernières chances de pouvoir mettre la main peut-être sur des podiums. Donc, il faut pas se tromper. Mais il a misé sur son écurie. Puis des fois, comme on dit, la stabilité mène sur le changement. Donc, on va pouvoir voir si les résultats pour Fernando Alonso seront positifs.
Super. Merci beaucoup, Marc-André. Ça a vraiment été en 18 minutes assez rempli comme intervention. Donc, merci beaucoup, Marc-André, pour ta présence. Puis on se retrouve soit pour l'après-course du Grand Prix de chez nous ou au prochain épisode. Du balado hebdomadaire.
Bien sûr. Puis n'oublions pas, Fernando, à Honda, vous allez en parler tantôt, mais est-ce que ce serait explosif ou non? Je vous laisse répondre à la question un petit peu plus tard.
C'est à suivre. Un grand merci, Marc-André.
Salut à tous.
Donc, merci. Ça a été rapide. Donc, Anna-Maria, si tu veux rebondir dans ce qu'on parlait, en fait, des autres options qui s'offraient à Alonso, est-ce que tu crois que... Par exemple, le Red Bull aurait été la meilleure solution pour Alonso ou avec Mercedes?
Non, mais vraiment, je pense pas, parce que comme l'a dit Marc-André, à Mercedes, il est pas, il allait là juste pour comme pour rester un petit peu, et après ça, serait comme la fin de sa carrière, parce que comme lui-même l'a dit dans le dernier Grand Prix, Mercedes, igual que pourquoi aller chez Mercedes pendant que ils sont en meilleure position maintenant que Mercedes, et que lui-même a dit c'est plus attractif, et je pense que lui était intelligent. Il y a pas question âge, oui, il y a le talent, mais il y a pas toute la vie pour continuer, c'est ça, c'est que c'est mieux rester dans quelque chose qui s'est assuré. Et si on pense un petit peu, tu sais, de toute façon, en 2026, Red Bull, il s'en va avec Ford. On ne sait pas c'est quoi ce qui s'en vient. Voilà. C'est tout nouveau. Ça fait longtemps que Ford n'était pas dans la Formule 1. Il s'en vient, il va faire des motos. Oui, Red Bull est là, il va apporter. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Par contre, lui, il sait que Honda, ça va bien maintenant. Et Honda, il arrive chez Aston Martin. Et oui, il y a eu des problèmes pour le passé, mais ça là qu'ils ont donné l'écho pour qu'il soit, il reste chez Aston Martin. C'est une bonne chose pour lui.
Et puis aussi, c'est bien que... merci d'avoir d'abord mentionné Fouad, parce que j'ai comme l'impression on est un peu... sans faire le parallèle avec Honda, lorsqu'elle est revenue avec, en Formule 1 par le biais de McLaren, on était un peu... je pense qu'on était un peu dans l'inconnu aussi hein, avec, avec Honda. Parce que Alonso, avec, de retour avec McLaren, c'était un bon fit. Certes, un peu chien pour Kevin Magnussen dans le temps, compte tenu de la situation dont il a été congédié, mais c'était un bon move, je trouve, de la part de McLaren. Bon, le truc, c'est que ça a vraiment foiré avec Honda. Donc, je ne sais pas si Alonso, en allant chez Red Bull, en assumant qu'il signait le même type de contrat pluriannuel, arrivé en 2026 avec Ford, qui est une grande inconnue, même si Red Bull a déjà, ben, le département de moteur de Red Bull connaît déjà les bases en ayant travaillé avec l'aide de Honda, va arriver avec Ford, une mentalité différente. Donc, c'est aussi le risque d'Alonso. Il a peur que, je ne sais pas s'il va avoir peur de revivre ce qu'il a vécu entre 2015 et 2017, et surtout à 45 ans, même si on sait qu'il en a encore dans le ventre. Donc, c'est ça aussi peut-être qui fait en sorte qu'Alonso a préféré le statu quo. Et comme il a beaucoup travaillé avec Honda, justement, je pense que c'est une bonne chose. Et aussi, ça nous permet de passer au point suivant. La relation avec Honda, certes, ça n'a pas été la grande joie. Je répète encore ce qui s'est passé en 2015 au Grand Prix du Japon, le fameux GP2 engine. Le fait de dire ça au Grand Prix national de Honda, ça a fait mal. Il y avait même eu, je pense, je me souviens plus si ça a été confirmé, mais lorsque Alonso a voulu faire son troisième 500 000 d'Indianapolis, Honda avait refusé de fournir un moteur à Alonso. Donc là, on va être en 2026. Alonso dit que c'est harmonieux. Et le président de la firme motorisée Honda, j'ai complètement oublié le nom, mais c'est de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, a dit que la relation a grandement évolué, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, je crois qu'on est prêt à repartir à zéro avec Alonso et Honda.
Oui, je pense que ils sont prêts à repartir aussi. Il faut prendre en compte que c'est pas non plus la même directive qu'il y avait avant. Tu te rappelles avec McLaren, il y avait Honda, il y a fait comme un réaménagement au complet, mais que maintenant c'est même pas les mêmes personnes. De côté d'Alonso, il a beaucoup appris aussi. Ouais. Il a beaucoup vieilli après ça. Et lui, il avait parti de la Formule 1, il est retourné, il était prêt à faire des concessions, comme il ne faisait pas avant, il était prêt à embarquer sur un Alpine sans avoir la certitude qu'il pourrait marcher. Mais que de deux côtés, il dit, ça va maintenant, et sûrement, il va avoir des clausules sur les contrats aussi, parce que ça ne se fait pas juste en parlant. Quand c'est question de pilote, de contrat, il y a des choses qu'ils vont dire, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais que je pense qu'il y a beaucoup évalué, ce n'est pas la même personne. Ouais. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver d'ici à 2026, parce que de toute façon, le contrat de Alonso, oui, c'est 12 ans, c'est pluriannuel. Il laisse la porte toujours à une sortie ou continuer. Ce n'est pas tous les bétons que lui va rester longtemps. On va voir qu'est-ce qui se passe cette année et sûrement, il va voir qu'est-ce qui manque encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de Grand Prix avant 2026 aussi. Ouais.
Et aussi, parce qu'Alonso a parlé aussi de l'éthique de travail de Honda, le fait qu'il ait appris beaucoup, surtout de son expérience avec Toyota au championnat du monde d'endurance. Donc, ça a permis à Alonso de encore plus découvrir l'éthique de travail. Déjà que ça a été le cas avec Honda, même si ça ne s'est pas bien passé. Mais je crois qu'Alonso est prêt à apprendre de l'expérience avec Toyota et des années très fructueuses au championnat du monde d'endurance pour justement mieux travailler avec Honda. Et là, je pense aussi qu'Aston Martin n'a pas pris en compte le passé houleux entre Alonso et Honda. Donc, je crois que ça démontre aussi l'ambition dans laquelle l'écurie se retrouve. Il dit, écoutez, c'était annoncé l'année dernière que Aston Martin allait s'associer avec Honda pour 2026. Alonso le sait que Aston Martin va signer avec Honda. Donc, entre-temps, je crois que les deux ont eu le temps de parler et ça a même été confirmé que Watanabe et Alonso s'en sont parlé il y a quelques mois, depuis quelques mois même. Donc, je crois que les deux clans sont prêts à passer outre tout ce qui s'est passé dans l'épisode McLaren pour repartir à nouveau. Donc ça, au moins, c'est un bon signe. Mais encore là, comme tu dis, entre le prochain Grand Prix et la fin en 2025, il reste encore du temps. Et surtout 2026 pour voir comment ça va agir. Donc on peut pas vraiment aller trop dans le futur. On va voir comment ça va se débrouiller, comment justement la réglementation 2026 va être ratifié, quels seront les points. Comme ça, l'équipe, le motoriste et le pilote vont pouvoir travailler collégialement et espérer de bons résultats lors du premier Grand Prix en 2026. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte lorsqu'on parle de Alonso et Honda. Donc, c'est tellement facile c'est tellement facile de revenir sur l'épisode 2015-2017. Mais c'est pas comme si Honda aurait dit non. Là. Ils sont passés à côté. Et regarde, en ce moment, ils ont du succès avec Red Bull depuis 4-5 ans à peu près. Alors, ils sont capables. Honda est capable de bâtir quelque chose de bien. On a parlé d'Honda, mais il faut qu'on parle d'Aston Martin et d'Alonso. Parce qu'il va arriver à 45 ans à la fin de la saison 2026. Est-ce que Alonso n'a dit il n'y a aucun signe de... Il n'a vraiment pas envie de se retirer de la Formule 1, de quitter la Formule 1. Il n'y a jamais pensé. Je sais qu'il a beaucoup parlé de voyages, des voyages, de calendrier qui continue à être très long avec 24 Grands Prix. Mais je ne sens pas qu'Alonso a envie de se retirer tout de suite. Et moi, parce que soit j'ai l'impression qu'il va continuer en Formule 1, ou soit quand il en aura assez, il va aller se tourner vers une autre discipline. Et là, un point important aussi, c'est que l'année prochaine, Aston Martin s'en va au championnat du monde d'endurance avec la Valkyrie. Est-ce que le jour Alonso dira c'est assez avec la Formule 1, il pourrait faire le saut en endurance avec Aston Martin, d'après toi? Je sors ma boule de cristal.
Non, pour vrai, je pense pas parce qu'il y a comme. Ben, quand il a pris sa retraite, entre guillemets, il a comme tout testé. Il a tout testé, il a fait le tout. Il a goûté à la WEC, il est allé à IndyCar, il est allé faire des rallyes. Je pense qu'il a fait comme le tour et après, il a décidé de revenir à la Formule 1. Je pense que finalement, lui a compris que c'est ce qu'il aime, la Formule 1. Selon moi, Fernando, quand il sera pas de... Quand il va pas être pilote, je le vois comme consultant, comme quelqu'un qui travaille dans l'équipe, une sorte de Niki Lauda qui est là, qui veut que ça marche et que jusqu'à maintenant, il fait travailler l'équipe, le monde aime ça, ça fait pousser pour lui. Parce que, selon moi, lui, ça marche avec Aston Martin, on voit une bonne relation. Même avec l'équipe, même avec les propriétaires, avec les pilotes, avec son coéquipier, même si le bon dit pas Stroll, mais lui dit ça va bien, ça travaille bien avec lui. Et que, selon moi, dans le futur, je vois à Fernando comme Prost William.
Ouais, ça pourrait être une bonne option. Et aussi, quand j'ai préparé l'épisode, j'ai vu dans un article dans The Race qui parle du Dakar. Parce qu'on s'entend, la réalité actuelle du calendrier de Formule 1 et d'endurance fait en sorte que ça va être très difficile de jumeler Formule 1 et les 24 heures du Mans, entre autres. Parce que je pense que l'année prochaine, peut-être, le Grand Prix du Canada. Il y a des chances que le Grand Prix du Canada 2025 ait lieu en même temps que les 24 heures du... la même fin de semaine que les 24 heures du Mans. Mais ça, le calendrier 2025 du championnat du monde d'endurance n'est pas encore terminé. Par contre, il y a toujours cette possibilité de participer au Dakar comme il l'a fait en 2020 pour la première fois avec Toyota. Est-ce que ce serait quelque chose qui l'intéresserait aussi en même temps de faire de la Formule 1? C'est possible de faire... C'est possible de faire les deux, donc parce que il y a pas grand chose en janvier à part peut-être les petites les derniers préparatifs pour tester la voiture en simulation et tout ça, mais il peut faire le Dakar. Donc je sais pas si c'est quelque chose qu'il a envie de faire à l'extérieur de la Formule 1, mais il l'a dit, il est 100% concentré avec la Formule 1.
Oui, c'est ça, selon moi, comme j'avais dit avant, il a déjà testé, il a déjà goûté 24 heures de Le Mans, il a déjà gagné aussi, parce que je ne vois pas l'intérêt. Si serait quelque chose qui serait un défi, je dis, ça, lui va chercher, mais c'est plus un défi, 24 heures de Le Mans, c'est plus un défi. Il a déjà gagné le championnat, il a gagné les 24 heures de Le Mans. Le Dakar, oui, il a goûté, il a testé, mais je ne le vois pas là-dedans. Franchement, c'est comme la NASCAR, je ne le vois pas là, non plus là-dedans. C'est quelque chose que lui ne touche pas, mais non, c'est vrai que je ne pense pas. Peut-être un jour, il va avoir le goût de venir faire la IndyCar, mais là, il faut qu'il se concentre plus que faire une course de 500 000. On fait comme une session au complet, une demi-session. Que je veux pas, je pense pas que qui va jumeler ça.
Et aussi,
je le vois pas.
Et aussi, et pour compléter le cal d'Alonso, ce serait très, encore là, ce serait très difficile pour lui de faire les 24, le Indy 500 plus la Formule 1. Il faudrait carrément qu'il arrête la F1 pour se concentrer sur les 500 000 d'Indianapolis, compte tenu de toute la préparation qu'il y a. Il y a eu des essais pas plus tard que la semaine dernière à Indianapolis pour le Indy 500. Il y a le mois de mai qui est super important, donc les essais, les qualifications, le Car Day et la course en tant que telle, ça prend tout le mois de mai. Et heureusement, il a décidé de faire ça en 2017, mais tout l'horaire qu'il y a derrière tout ça, la préparation des 500 000, c'est beaucoup pour la grande course à la fin du mois de mai. Puis en plus, ça clash avec le Grand Prix de Monaco plus souvent que d'habitude. Donc, on a fini avec Fernando Alonso. Maintenant que le contrat est signé, il y a le marché des transferts 2025 qui reste actif. Maintenant qu'Alonso est... maintenant, tout est scellé. il reste quand même un pilote qui va être l'agent libre le plus prisé. Eh bien, c'est Carlos Sainz. Maintenant qu'Alonso reste avec Aston Martin, moi, je pense qu'on peut déjà cocher Mercedes maintenant. Comme je l'ai dit, je pense que le plan A, c'est Andrea Kimi Antonelli. Le plan A prime, c'est, et qui va devenir bientôt le plan B, Carlos Sainz. Chez Red Bull, ça pourrait être une option de le ramener dans le giron, mais cette fois-ci avec le grand club. Si jamais ben, il décidait de ne pas renouveler le contrat de Sergio Perez et que les options chez RB, Daniel Ricciardo, ça ne va pas très bien, il n'ira pas. Yuki Tsunoda performe bien, mais certains vont dire, est-ce que c'est suffisant pour lui pour obtenir ce fameux deuxième volant chez Red Bull? Liam Lawson, moi, je pense qu'il va aller chez RB. Donc, si les trois pilotes ne sont pas des options pour remplacer Sergio Perez, Carlos Sainz pourrait être une option. Par contre, il y a aussi Sauber / Audi qui pourraient être intéressés, mais ce serait comme un recul en arrière compte tenu de la... Surtout le début de saison de Sauber qui n'est pas capable de faire un arrêt en moins de 4 secondes. Et aussi, Audi veut préparer... Sauber veut préparer le terrain pour Audi pour 2026 et Carlos Sainz serait une bonne option. Il y a même Williams, j'ai lu ça, mais Williams... je sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Anna Maria?
Non, mais selon moi, la suite logique, c'est que les options plus intéressantes pour Carlos, ça serait au Mercedes ou chez Red Bull. Parce que il faut pas négliger que certainement, Red Bull était intéressé et Carlos est un pilote qui a grandi avec Red Bull. Et c'est un des pilotes Red Bull qui ne s'est pas fait mettre dehors. Lui est parti parce qu'il voulait. Ce n'est pas parce que l'équipe ne voulait pas de lui. Il n'y avait pas l'option. Il ne pouvait pas mettre les deux pilotes à Red Bull parce que Carlos il voulait aller chercher dans autre équipe, et finalement, il était prêté à Renault, parce qu'il était prêté pendant deux saisons, au moins, ouais. avant qu'il soit libéré pour Red Bull. Mais c'est un des pilotes qui Red Bull, il a fait depuis qu'il est un jeune pilote, trois points dans la Renault, trois points Benzine, quelque chose comme ça. Mais je pense que la suite logique pour Sainz, ça soit Red Bull ou Mercedes. Moi, personnellement, selon mon opinion, pour moi, ça serait Red Bull sa meilleure option. Si Red Bull offre quelque chose, là, il va aller bien parce qu'il y a un voiture compétitif. Et comme tu l'as dit, lui, il vient de commencer une saison où il a déjà fait une victoire chez Ferrari. Et Audi, c'est intéressant, c'était un nouvel défi, un nouvel projet, mais qu'est-ce qu'on voit maintenant chez Subaru, c'est pas très intéressant pour lui. Il va descendre et oui, il n'y a pas de voiture maintenant parce qu'il n'y a pas de contrat à Ferrari. L'année prochaine, lui est libre, mais en même temps, ça serait intéressant d'avoir une voiture compétitive pour continuer. Parce que sinon, il va juste se brûler. Si tu sors de Ferrari, tu vas aller dans une voiture pas compétitif, qui n'est même pas capable de se rendre au point, qui n'est pas capable de faire de ce stop comme il faut, ça c'est pas intéressant. Et de côté Mercedes, comme tout le monde dit, oui, il s'attend à Tonelli, là, il va aller chez Mercedes pour une ou deux saisons, parce qu'ils ont la place qu'ils gardent pour son pilote. En même temps, Mercedes, cette année, comme on dit un bon Québécois, ils font dur. Ça ne marche pas très bien. C'est difficile pour même pour Hamilton, c'est difficile pour Rosso. Et c'est sûr que pour lui, si je suis lui, même si Red Bull m'offre une année, j'y vais là, parce que de toute façon, il sera l'option à Audi pour 2026. Oh, on ne sait pas si ça marche. On ne sait pas si ça marche et Siri est intervenu.
Oups!
En tout cas, oui, côté Sainz, je pense que lui est libre, mais il est dans un bon monde, mais qu'il va pas, il va pas rester dehors l'année prochaine. Ou, je sais pas, mais pour moi, Red Bull est de la sanction la plus intéressante parce que maintenant, Ricciardo, il s'est fait mettre un ultimatum si ça marche pas la prochaine course. Liam Lawson, il attend pour suivre, mais que ça pourrait marcher peut-être avec Red Bull, et sinon, bah, Mercedes, mais c'est sûr qu'il va pas, je pense pas qu'il va rester dehors.
Mais il y a peut-être un problème, parce que si jamais Sainz devait signer, par exemple, si chez Red Bull, ce serait principalement pour plus qu'un an, parce que je ne pense pas que... Parce que beaucoup voient Sainz chez Audi déjà pour 2026. Donc, pour moi, ce ne serait pas idéal pour Sainz d'aller chez Red Bull juste pour un contrat d'un an. Je pense que ce serait même plus que ça, parce que beaucoup de gens voient Sainz déjà signé chez Audi pour 2026, parce que bon, il y a les liens entre autres avec son père qui a gagné le Dakar avec Audi, qui pilote pour Audi en rallye, dans le rallye raid. Mais pour moi, je pense que si il va avec Red Bull, ce sera pour un an, à moins de non seulement pour préparer le terrain pour le pilote qui va le remplacer dans le giron de Red Bull. Moi, je pense que le choix le plus safe, ce serait aller avec Mercedes, donc littéralement un échange de pilote avec Lewis Hamilton. Comme ça, Sainz peut se préparer pour... Ça peut être un contrat 1 plus 1, genre. Il prend le volant chez Mercedes pour un an. Il va chez Audi en 2026. Et Mercedes peut monter Antonelli, déjà prêt pour la Formule 1. Parce que je vois pas l'utilité de le mettre avec Red Bull pour 2 ans et puis pour partir chez Audi. Je sais qu'il y a aussi Nico Hülkenberg qui serait intéressé. J'ai lu quelque part dans les nouvelles, je sais pas encore à quel point c'est fiable, Audi aurait contacté Esteban Ocon et Pierre Gasly, dont eux, leur contrat se termine à la fin de la présente saison. Donc, oui, il y a plein d'options qui s'ouvrent pour Audi, mais beaucoup voient Sainz déjà avec les 4 anneaux. Moi, je pense que si la logique était là, elle est bel et bien là, les rumeurs sont vraies, étaient vraies, devrais-je dire, ben Sainz serait un pilote Mercedes pour un 1 plus 1. Comme ça, il va chez Audi pour 2026. Et ensuite, Antonelli s'en va chez Mercedes. Mieux préparé parce que je comprends Mercedes de vouloir le placer tout de suite. Et surtout Mercedes est dans une phase de reconstruction. Je pense que ça, on ne va pas se le cacher. Mercedes n'est plus l'équipe qu'elle était il y a 10 ans, entre 2014 et 2021. Donc, il faut qu'elle accepte son rôle d'écurie de milieu de peloton, genre top 5. Donc, moi, je pense que au moins mettre Antonelli tout de suite dans le feu de l'action, ce serait un peu risqué. Mais ça peut aussi être un genre de Oscar Piastri, qui sait, même si Piastri doit encore prouver cette année. Donc, moi, je pense que Sainz irait chez Mercedes. Ce serait un choix safe. Et ensuite, moi, je pense qu'il pourrait faire le saut chez Audi pour 2026. Donc, moi, c'est ce que je vois personnellement.
Sí, como yo te había dicho, mi opinión c'était très beau parce que yo dije, ¿por qué no tenter sa chance? Hein? On ne sait jamais.
Ouais.
Il a réussi à Red Bull et ça marche et on voit tout compétitif en plus et d'un coup Red Bull il peut pas se faire pousser pour Verstappen des menaces de je vais quitter si c'est ça
ouais.
Tant que ton pilote est compétitif c'est mieux, c'est encore mieux
et ça on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, ça va être à suivre. Et puis, évidemment, il y aura certainement un effet boule de neige. Et pour compléter, ben, juste rappeler en fait les dates d'expiration de contrat des pilotes actuels. Donc, Max Verstappen, son contrat se termine en 2028 officiellement. Bon, s'il décide de rester ou s'il décide de partir à la fin de la saison, mais ça, c'est un long shot. Sergio Pérez, son contrat avec Red Bull se termine en 2024. Lewis Hamilton, chez Mercedes, on sait que Lewis Hamilton part pour Ferrari à la fin de la présente saison. George Russell, son contrat est bon jusqu'à la fin de 2025. Charles Leclerc a signé un contrat de plusieurs saisons. Certains avancent que c'est pour jusqu'à maximum 2028 ou 2029. Carlos Sainz va être agent libre à la fin de la présente saison. Chez McLaren, c'est scellé pour Lando Norris et Oscar Piastri. Ils sont là jusqu'en 2026 avec l'équipe Papaye. Fernando Alonso va rester pour 2025 et 2026. Non officiellement, Lance Rose pourrait être son coéquipier, mais ça reste à voir. Chez Alpine, le contrat des deux pilotes, Pierre Gasly et Esteban Ocon, se termine à la fin de la présente saison. Chez Williams, Alex Albon est là jusqu'en 2025. Mais certains disent qu'il serait un candidat pour Mercedes. Le contrat de Logan Sargeant se termine à la fin de 2024. Chez RB, les contrats de Daniel Ricciardo et de Yuki Tsunoda, ainsi que chez Sauber avec Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, et chez Haas avec Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, se termine à la fin de la présente saison. Donc, il se peut qu'on ait un changement de personnel assez important pour d'ici la fin de l'année 2024, tout comme ça peut être en quelque sorte un statu quo, mais ça c'est à suivre. On ne sait pas ce qui peut arriver en Formule 1, mais il y a toujours des surprises et toujours des déceptions. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. On aura l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Chine qui fait son retour au calendrier après 5 ans d'absence pour des raisons évidentes. Donc, on va revenir là-dessus dimanche. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres où le bulletin GP est disponible. On a aussi je dois dire rest in peace bulletingp.com. On est maintenant sur Substack et vous pouvez juste taper le bulletin GP puis on est là. Le premier article parle du calendrier 2025, donc lebulletingp.substack.com. D'ailleurs, je suis en train de commencer la rédaction d'un deuxième texte et vous pouvez même vous abonner à l'infolettre du bulletin GP avec le dit texte. C'est 100% gratuit. On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Threads @lebulletingp. Et on est évidemment disponible sur le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez parler avec n'importe quel amateur de Formule 1 au Québec. Anna-Maria, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Adou.
Donc, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et mon nom est Abdussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Prenez soin de vous et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!